J'ai plus de 50 ans, j'ai pas de Rolex, bref, j'ai raté ma vie. Et pourtant, au départ, j'avais les mêmes chances que M. Mullier. Ben, moi aussi, j'avais mon carré de radis. J'avais même tout un rang de petits pois, c'est dire. Et lui, il a bâti un empire à partir de ses légumes. Faut le faire, hein. Cela dit, il y a un précédent, mais avec des fruits. C'est Rockefeller, je crois, qui expliquait ainsi sa fortune. J'ai acheté une pomme 3 cents. Je l'ai fait briller, je l'ai revendue 6 cents. Avec cet argent, j'ai acheté 2 pommes. Je les ai lustrées, j'en ai tiré 12 cents. Ensuite, j'ai hérité. Bon, là-dessus, je retourne biner mes citrouilles, on ne sait jamais. Hein. C'était Christine du Limousin.
Salut Daniel et tous les MG. Une date à inscrire dans vos agendas, le samedi 29 septembre à 8h au col de jour. Limite des PO et de l'ordre, manifestation contre le Groupama, propriétaire de 1900 hectares dans le massif du Mabre. En effet, M. Cornu Chauvin, président directeur en exercice du groupe, interdit l'accès au Mabre à toutes les personnes, par deux gardes, sur ce site classé Natura 2000, pour amener tout simplement ses petits copains en 4x4 chassés. Cette journée, marche, débat et pique-nique sortis du sac au refuge de Cailloux, accessible même aux petits marcheurs. On vous attend nombreux. Patrick et Christine de Montaillou, dans l'Ariège. Merci et bonne journée.
Bonjour à tous. Gilles-Éric Serligny apporte par ses travaux de recherche des conclusions effrayantes sur la réalité que sont les plantes transgéniques. Ces plantes ne sont pourtant pas une fatalité. Le premier maillon de cette chaîne alimentaire est la semence. Vous avez l'occasion, si vous le désirez, de participer jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre aux rencontres internationales sur les semences organisées par le réseau Semences Paysannes et Bio d'Aquitaine, deux journées qui se dérouleront à Périgueux en Dordogne. Durant ces journées, 14 pays feront part de leur expérience sur la gestion collective de la biodiversité cultivée. À bientôt, c'était Gérard, au revoir.
En tant que parents d'élèves de l'école intercommunale maternelle Robert Doisneau à Saint-Denis, nous tenions à vous informer que nous avons décidé d'occuper le bureau de la directrice de l'école de nos enfants depuis le 21 septembre. Cette décision a été prise faute de non-réponse au non-remplacement de la directrice dans notre école, situation qui perdure depuis la fin de l'année scolaire précédente. L'absence de directrice signifie des problèmes de sécurité au sein de l'établissement, une augmentation des difficultés administratives pour les familles, pas de sortie pour nos enfants, pas de fête d'école. Mais cela signifie aussi des enseignants qui devront abandonner leur classe, des problèmes de remplacement et donc des classes surchargées, car l'inspection académique demande aux enseignants de remplacer la directrice sur leur temps de travail. Les dispositifs d'aide à l'intégration scolaire des enfants porteurs de handicap ou nécessitant un accompagnement spécialisé sont impossibles à mettre en place et coordonnés en l'absence de direction. Notre école maternelle est une des plus importantes de Saint-Denis avec ses 12 classes. Il est urgent que l'État assume pleinement ses responsabilités. Nous insistons pour que la priorité soit donnée dès maintenant aux écoles situées dans des territoires en difficulté comme le nôtre. Cette occupation d'école prendra fin lorsque nos revendications seront prises en compte. Il y va de l'avenir de nos enfants. Les parents d'élèves de l'école maternelle Doisneau, soutenus par tous les syndicats d'enseignants, la mairie de Saint-Denis, ainsi que M. Leroux, député de Seine-Saint-Denis.
Ouais, salut Daniel, je sais pas si tu as lu Le Parisien aujourd'hui. Ah, je suis tombé sur le cul, hein. Quand j'ai vu ce qui est dépensé pour les élections présidentielles américaines, presque 1 milliard 4 de dollars, Bon, enfin bon, ce qui nous rassure, c'est que Mitt Romney, déjà, il est sponsorisé par Goldman Sachs. Donc, la crise va continuer avec M. Mitt Romney, et espérons que dans ce cas-là, il ne gagne pas. Sinon, Goldman Sachs, on est mal barré. Déjà qu'en Europe, on a Mario Monti et Mario Draghi, les deux Super Mario, donc plus le gouvernement, une partie du gouvernement italien. Donc bon, bah voilà quoi, continuons la crise. Boutons la crise, comme dirait Groland, voilà. Bon bah, hein. Espérons que Obama va gagner, voilà. C'est le seul sentiment que j'en ai pour l'instant. Voilà, bon bah, bonne journée à tous, à toutes les AMG et à toute l'équipe de... Bah bah si j'y suis. Bye, c'était Christophe de Noisy.
Oui, salut, c'est Pacom de Montréal. Alors, ce matin, je me réveille, je regarde sur mon ordinateur les informations, puis qu'est-ce que je vois? Un truc sur Mitt Romney. Sa femme était en route pour aller le rejoindre à Los Angeles pour aller récolter des fonds avec lui. Et il y a eu un incident dans l'avion, il y a eu un petit incendie. Les pilotes ont dû atterrir d'urgence à Denver, il me semble, ou quelque chose comme ça. Bref, et Mitt Romney, candidat à la présidentielle des États-Unis, a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi, lorsqu'il y a un incendie, les gens ont besoin d'oxygène et pourquoi on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres dans les avions. Donc, M. Mitt Romney ne sait pas qu'il y a que très peu d'oxygène à cette altitude. M. Mitt Romney, par contre, veut diriger la plus grande force militaire du monde. Et M. Mitt Romney va être le dirigeant de la NASA. Enfin bref, ça porte à réfléchir sur ce qui se passe chez nos camarades américains. Allez, bonne journée, c'est Pacom de Montréal.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent encore aujourd'hui à Salt Lake City, dans l'état de l'Utah. Salt Lake City, vous le savez, c'est la capitale des Mormons, cette religion très très américaine dont on parle énormément. Pourquoi ? Parce que Mitt Romney, le candidat républicain, est un Mormon et on s'intéresse beaucoup. Vous savez bien sûr qu'il a été missionnaire mormon en France et nous avons rencontré pas mal de Mormons déjà lors de notre séjour ici à Salt Lake City, toutes sortes de Mormons, Mormons belges, Mormons homosexuels, Mormons démocrates, ex-Mormons, tous aimables, tous courtois, tous lisses comme cette ville de Salt Lake City, mais tous sont un peu ennuyés par ce Mitt Romney qui attire l'attention sur leur ville et sur leur vie. Or, on peut dire que Mitt Romney multiplie les gaffes. Il y a l'histoire de son étonnement à ce que on ne puisse pas ouvrir les fenêtres des avions. Vous l'avez bien sûr entendu parler. Il y a d'autres étonnements. Par exemple, ce milliardaire de Romney est imposé à un taux de 19%, alors que le chauffeur de taxi qui vous conduit à l'aéroport, lui, a un taux de 26%. Là, il y a quelque chose quand même qui est un petit peu étonnant. Étonnant pas tant que ça quand même, parce que cette campagne pour les présidentielles aux États-Unis du 6 novembre prochain baigne dans l'argent. Bien sûr, on est aux États-Unis, bien sûr, la campagne précédente, elle aussi, a baigné dans l'argent, mais là, ça prend des proportions extraordinaires depuis que la Cour suprême autorise un financement sans limite des candidats. Alors bien sûr, Barack Obama, au cours de sa campagne, avait dit qu'il était horrifié par de telles pratiques et qu'il ne le ferait pas, qu'il ne le permettrait pas, mais il a bien dû s'adapter, le gentil Barack Obama, à cette manne qui est tout à fait corruptrice. Il l'avait dit la dernière fois, Barack Obama, je n'ai pas fait campagne pour aider les gros bonnets de Wall Street, mais en 2008, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, UBS et Morgan Stanley avaient figuré sur la liste des 20 principaux bailleurs de fonds de sa campagne. Et à nouveau, dans cette campagne, les mêmes sont présents. Et un journaliste, William Ryder, avait pu résumer une fois pour toutes cette situation. Les démocrates sont placés devant un dilemme. Peuvent-ils servir l'intérêt public sans mécontenter les banquiers qui financent leur carrière? Cette campagne baigne dans le fric et c'est comme ça, je crois, qu'il faut regarder les choses avant de s'intéresser aux uns et aux autres, aux gaffes des uns et même au bilan des autres. Voilà quelques nouvelles et quelques réflexions venues de Salt Lake City, mais on a pensé à vous. Aujourd'hui, vous allez retrouver un bricoleur, un entrepreneur français, vous savez que nous sommes pour la petite entreprise, qui a une petite activité, qui, ma foi, ne connaît pas la crise et qui n'est pas prêt de la connaître. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
J'appelle le message si j'y suis parce que aujourd'hui nous avons eu droit à plusieurs ministres, entre autres messieurs Cazeneuve et Montebourg, qui nous aident jurés de voter le traité Mercosur qui va mettre dans un carcan notre économie. Et tous les deux, et d'autres encore, invoquaient les marchés. Alors c'est quand même un petit peu étonnant et il faut aller ne pas dépasser les 3% de déficit et surtout voter ce traité pour que la France reste crédible pour les marchés. Mais pourquoi ? C'est-à-dire pour qu'on leur emprunte encore de l'argent aux banques privées. Et comme ça, elles pourraient nous plumer encore une fois. Alors il me semble qu'il faudrait bien écouter les économistes et surtout le front de gauche qui ont demandé ce dont on n'entend jamais parler, c'est-à-dire que les États puissent à nouveau emprunter directement auprès de leur banque centrale ou à la BCE sans passer par les banques privées qui font le racket. Voilà. Alors, les marchés, on a assez d'entendre parler des marchés comme de la divinité à laquelle on ne peut échapper. Au revoir et bonnes émissions encore. Merci.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Cette semaine, j'ai une pensée particulière pour les 2000 victimes du Djola. Vous en avez sûrement entendu parler, sûrement pas. Ce sont les victimes du naufrage civil le plus meurtrier de toute la planète et de tous les temps. Mais ça n'a jamais vraiment intéressé les médias ou si peu. Titanic, c'était quand même plus chic, le Concordia, c'était quand même plus classe, ça faisait de belles images. Sur le Djola, il y avait surtout des Africains, de jeunes Africains, beaucoup d'étudiants qui rentraient à Dakar étudier. Leur mort, c'était une vraie catastrophe pour toute une région. Et pire encore, l'absence des secours est un scandale monstrueux dont on n'a su que très peu de choses. C'était il y a tout juste 10 ans, le 26 septembre 2002, ne les oubliez pas. Raconte-nous, Daniel, l'histoire du Djola.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Anne Rioux. Ah, oh, quelle belle boîte à outils!
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, allez, on peut. Donc on va chauffer le métal au rouge cerise pour écraser le métal, faire arriver. Je vous montre un... Alors voilà, on va faire un assemblage... Saxo ici! Un assemblage par riftage, comme on faisait il y a 300 ans, hein, sur une partie dure. Après on allume le chalumeau, logiquement on fait ça à la forge, mais là... Là, on chauffe, là. Alors, c'est le système d'assemblage à Tour Eiffel. Hein. La Tour Eiffel est assemblée comme ça.
C'est la même chose que pour la Tour Eiffel, vous dites ?
Voilà. Même assemblage. Vous voyez ? Comment on fait ?
C'est quoi ? C'est un chalumeau, ça ?
Un chalumeau. On fait ça en deux temps. Alors, bougez pas. Mettez-vous par là. Première fois, on fait une deuxième chauffe.
Ça sent le brûlé, hein?
Ah ben c'est normal, ça. C'est la ferraille. Ah, attention à vous, là.
Ça y est, c'est rouge, hein?
Le rivet est fait, vous voyez.
Eh oui, on en trouve encore de ces braves artisans français de notre France profonde, de notre France d'en bas. Cette race d'hommes modestes et fiers de ce qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire un métier. des hommes loin de toutes les turpitudes perverses des bobos socialistes et dégénérés. Oui, il y en a encore. Ferronnier, serrurier, un homme qui a monté sa boîte. Et seulement, voilà, cette émission, c'est là-bas si j'y suis. Et je ne vous en dis pas plus. Là-bas si j'y suis, il faut s'attendre au pire. Et le pire est dans le fruit, et même dans le fruit défendu. Vous avez entendu le rivet, l'assemblage. Je ne vous en dis pas plus. Et puis cette Anne Rioux, journaliste s'exploratrice. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Ce que je sais, c'est que là où l'on va, c'est pas des fleurs qu'il faut apporter, on apporte plutôt sa caisse à outils. Eh oui, si la serrure de la ceinture de chasteté reste coincée, si le lit monté sur vérin hydraulique pour s'envoyer à 12 en l'air reste en l'air et que c'est dimanche, eh bien, on est content de l'avoir, la caisse à outils. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis même pas ni où, ni comment, ni dans quelle tenue Anne Rioux, journaliste s'exploratrice, et ce Bruno, ce brave serrurier, se sont rencontrés, lui avec sa clé de 12 et elle avec son mari, empalés sur la tringle à rideau. Je ne vous en dis pas plus, comme dit Woody Allen, non seulement Dieu est mort, mais en plus c'est impossible de trouver un plombier le dimanche.
Mon slip, c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne. Mon slip, c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon en laine. Mon fer à souder, je ne veux pas qu'il rouille. J'arrive à le caser derrière une de mes pinces. Il me faut un endroit joli dans mon slip. Y a déjà mon zippo, je vais trop vite. Quel enfer ce slip, on dirait que ça tend la bite. Mon slip, c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne. Mon slip, c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon en laine. Je propose des visites, les gens déambulent, le tout Bordeaux s'invite. Dans mon slip on s'empiffre, pas besoin de guide, tout le monde se suit. Je ne connais pas de bide de jour comme de nuit. Dans mon slip on joue, oui on joue. Mon slip c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne. Mon slip c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon. Mon slip c'est ma boîte à outils, là où ce que je range tout ce qui traîne. Mon slip c'est ma boîte à outils, vraiment chez moi c'est une manie. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon en laine.
On a une tête ronde, et on retourne à la tête ronde à l'autre bout. Ça, c'est meilleur assemblage qu'une soudure, ça ne bouge pas la dilatation, été comme hiver, ça ne bouge pas.
C'est ça qui fait votre réputation ?
Voilà, c'est de faire des assemblages à l'ancienne, quoi. Plus personne ne fait de rivetage maintenant, ou pratiquement plus, quoi. Donc, c'est inusable, ça dure 1000 ans, enfin, c'est des métiers d'hommes, quoi, c'est dur.
Ah, c'est un métier d'homme ?
Oh, bah oui, là, faut quand même remuer des gros marteaux, hein. Les marteaux font de 400 grammes à 1,5 kg, hein, donc...
Et vous, ça muscle votre corps ?
Oui, ouf. Oui, restons modestes.
Qu'est-ce que ce rivet, il va aller sur quoi alors?
Pour des carcans, pour des porte-boulets, enfin ce qu'on veut quoi. Des menottes également. Moi, j'ai des menottes comme ça aussi. J'ai Beauvoisson, des menottes anciennes. Mais on peut faire des objets SM quoi.
SM, ça veut dire?
C'est un sadomaso, mais bon, j'en propose ce terme-là. Moi, c'est une clientèle comme une autre, et puis voilà quoi.
On dirait jamais, le village où l'on est, c'est absolument charmant, vous entendez ça, c'est un cadre champêtre, les petits oiseaux, ce ciel d'Eure-et-Loire, des endroits où il fait bon aller respirer. Eh bien, c'est là qu'on va aujourd'hui, route du Mal aux Verges. Oui, ça s'appelle vraiment comme ça, c'est vraiment une route qui s'appelle comme ça dans ce charmant village d'Eure-et-Loire. Et là, eh bien, il y a Bruno qui nous attend, ou plutôt qui attend Anne Rioux. Et vous avez compris que ce garçon, d'une trentaine d'années bien passées, eh bien, il fabrique dans son atelier des ustensiles un petit peu particuliers. On le surnomme le forgeron de Satan.
Voilà, un costume traditionnel.
C'est la vraie blouse de travail. Hein?
Le forgeron.
C'est quoi, bleu?
Bleu, oui.
Bleu et tout noir devant, quoi.
Oui, pas forcément, parce qu'on travaille.
Comment s'appelle votre métier?
À la base, c'est d'être ferronnier, chaudronnier, enfin, métallier, tout ce qu'on veut, tout ce qui a rapport au métal, quoi.
Ouais. Vous dites à la base, parce qu'après, c'est devenu quoi?
Oh, on peut quand même dire le terme décorateur, hein. Ça serait pas exagéré, hein.
Ouais.
Décorateur en métal, voilà.
Ouais. Ça suffit pour définir, vous croyez?
Bon, décorateur, restaurateur, parce que je restaure également les monuments historiques à Paris. Donc, un client, il veut un rhinocéros, on en fait un en métal. S'il veut un palmier, on lui fait un palmier. S'il veut un avion, je mène un avion. Enfin, voilà, quoi.
Appelons ça, est dans la catégorie nuit.
Oui, bah, je travaille pour des clubs d'échangisme. Donc, on arrive dans les cages, si je puis dire. Une clientèle spécifique. Les clubs de chanisme, ce sont des menottes, des croix de Saint-André, des cages.
C'est quoi les croix de Saint-André?
Bon, je vais vous montrer.
Ouais, je me demandais si vous pensiez qu'on était bien habillés tous les deux.
Oui, bien sûr. Je suis fidèle à moi-même.
C'est-à-dire,
oui. Je suis en blouse.
Et moi?
Ah bah ça va, vous êtes toute belle avec vos décolletés.
Ah. Ah oui, le décolleté. On va où?
Au club Sadomaso, SM. Et ce soir, c'est une soirée transsexuelle, je crois, ce soir.
Bonsoir, messieurs, dames.
Vous venez souvent?
Oui, tous les mercredis.
Ouais. Et c'est un lieu unique ici à Paris?
Oui, je pense que c'est le lieu le plus beau et le plus adapté au SM.
Ce que je voulais vérifier, c'était la solidité du matériel.
Là, c'est une pièce un peu cachot. Donc ici, tu as vraiment un cachot avec des ouvertures à différents niveaux, au niveau du sexe, au niveau de...
Sur une porte.
Et la personne reste pendant plusieurs heures, si on veut, attachée à ses chaînes. Voilà.
Vous risquez pas de le casser parce qu'ils font tout là-dessus. Ouais. Il faudrait vraiment trier très très fort. C'est...
On a vu des très gros suspendus sans problème.
Bruno.
Moi?
Oui. C'est vous aussi ça qui avez fait ça, ouais?
Oui. C'est moi.
C'est un siège, un très très ancien siège de dentiste qu'on a modifié. On a mis des petits étriers comme un peu comme. C'est un gynécologue, et puis à partir de là, on peut jouer avec. Ouais. Parce qu'on peut attacher les mains, on peut s'engoder tout seul, là, sur cette espèce de... À première vue, quand vous rentrez, si vous n'avez pas le fantasme, vous ne pouvez pas comprendre à quoi ça sert. En fait, sur la grosse manette rouge, là, un gommiché en plastique, et ça tient très solidement dans le mur. Donc, en fait, la personne fait des tractions avec ses mains, et en même temps, se fait la mort tout seul. Quoi.
À quoi sert la boîte de Kleenex, là?
À s'essuyer.
Dans les idées lubriques, en lui disant, bon, voilà, Bruno...
Vous êtes le patron du donjon.
Oui, hein? Bruno, c'est un artiste. Alors donc, lui, il a le goût, il a le savoir-faire. Bon, moi, après, j'ai les idées lubriques. Donc, je commande à Bruno des trucs, mais où il comprend très, très vite, parce que j'ai même presque pas besoin de lui expliquer. J'ai dit, voilà, je veux un truc comme ça. Pouf, Bruno, je lui fais même presque pas de dessin. Il n'y a pas besoin de lui faire un dessin. Il a tout de suite compris. Donc, il me sort un truc d'enfer. Donc, c'est là où Bruno est extraordinaire. Quoi, lui, il a le goût du médiéval, du... Comment on pourrait dire? Je sais pas. Du secret, quoi. Il est capable de nous refaire tous les corps de la conciergerie à Paris. Je suis sûr que Bruno, on lui montre deux photos, c'est fini. Le lendemain, il nous fait un truc... Enfin bon, c'est un petit peu des copies des instruments préhistoriques de torture, quoi.
Ah oui.
Bah oui.
Alors ça, c'est Bruno qui l'a fait.
Mais on n'a pas mis les pics dedans. Nous, on le fait soft. Il nous a fait un siège très particulier, là, où toute l'armature, c'est Bruno qui l'a étudié et qui nous l'a fait un truc d'enfer. C'est-à-dire qu'il y a un système mécanique où on met un sexe artificiel en plastique. On appelle ça un goy-miché. Il est articulé ici, vous voyez, par un petit moteur. électrique. Donc, en général, on fait asseoir sa jeune femme au bar. On la fait asseoir sur ce tabouret qui est percé. Et on peut diriger la vitesse de va-et-vient
Du coït mécanique.
À l'arrière. Et par contre, on a aussi l'avantage, et ça c'est aussi une idée à Bruno, c'est d'avoir mis une glace en face, de façon à pouvoir voir en même temps les fesses et le visage.
Oui. Asseyez-vous. Allez, bouge pas. Asseyez-vous. Il n'a pas bougé mon bébé. Hein.
Attendez, vous voyez votre chien ?
Mon chien, oui, ça c'est important. Hein.
Pourquoi ?
Bah, question de principe, il est de bonnes origines. Ça s'appelle Saxo. Il est très mignon, il s'appelle aussi Gazou. Il est très mignon. Dis bonjour, mon bébé. Il est surdoué.
Surdoué ?
Ah, oui, oui. Très mignon. Il manque il lui manque la parole.
C'est un labrador tout noir.
Oui. Ouais. On veut. Allez, essayez-vous.
Et voilà, vous avez compris l'activité de Bruno dans ce village charmant, encore une fois, d'Eure-et-Loire. Décor champêtre, on entend le bruit joyeux du marteau, du ferronnier qui travaille. Et qui travaille à quoi ? Ben, vous avez compris, surtout si pour vous, la roulette du dentiste suscite une érection irrésistible.
Qu'est-ce que vous voulez me montrer ?
Je vais montrer les juments, elles sont très gentilles.
Vous avez des chevaux aussi ?
Je peux donc j'attelle sur des matériels agricoles anciens. Mmh. Et je fais des semis avec, enfin un peu de tout quoi. Du fauchage, des récoltes. Mmh. Elles sont costauds mais gentilles comme tout.
Ouais. Mais vous avez commencé, vous étiez agriculteur ?
Oui, j'ai commencé comme agriculteur, oui. Et puis, j'ai pas réussi à m'agrandir comme je le voulais. Alors, j'avais appris un métier parallèlement à ça. Et puis, je continue mon métier de ferronnier.
De
ferronnier.
Ferronnier,
et puis, je regrette pas parce que y a quand même des revenus un peu plus conséquents qu'en agriculture. Malheureusement, c'est...
Vous avez pourtant gardé un champ.
Moi, j'ai gardé, oui, une partie de la ferme que je loue, quoi. Voilà, mais...
Non, mais le champ qu'on a vu...
J'ai gardé des champs pour m'amuser, oui.
Ah, pour vous amuser.
Oui, c'est pour m'amuser, c'est ma distraction dont j'attelle les chevaux, je m'amuse avec quoi.
Mais quand ? Parce que vous travaillez pas mal, hein ?
Je travaille beaucoup, le peu de temps que j'ai de libre, en général le samedi ou un petit peu pendant les vacances, quoi, un petit peu.
Est-ce que vous prenez des vacances ?
Non, jamais, mais je prends une journée de temps en temps.
Non, jamais de vacances, mais une journée.
Une journée de temps en temps, ça peut être en semaine, un mardi, ça peut être un jeudi, ça dépend comment je suis luné, ça dépend de plein de choses.
Ah oui, donc vous faites du colza pour vous amuser, pour vous détendre ?
Oh, c'est plutôt du blé, votre, plutôt du blé. Oui, c'est un amusement, oui. Il faut chercher la lieuse avec des matériels anciens d'avant-guerre.
Vous faites ça avec du matériel d'avant-guerre ?
Ah oui. Après-guerre, c'est du récent, ça. Uniquement de l'avant-guerre, oui. Puis là, ça, c'est ma roulotte, ça. Alors, quand j'ai une crise, j'attelle la roulotte, je m'en vais.
C'est quoi, une crise ?
Un peu de fatigue, ou je me repose un petit peu, je pars 5-6 jours. Je mets les juments devant, et puis je m'en vais. Comme des voyageurs, des gitans, pareil, quoi.
Non, sérieux, vous prenez les deux percherons là ?
Oui, puis hop, j'attelle ça en paire et puis je prends la route. Et puis on fait du feu le soir, enfin c'est... Il y a à manger et à boire. Je débranche le portable et puis je m'en vais. Comme ça, faut pas me joindre.
Ah, en fait, ce sont les clients que vous fuyez.
Oh, oui. Parce que j'ai un peu trop de travail alors...
Il y a du vent.
Il y a beaucoup de vent, oui. Non, j'ai trop de travail alors je fuis les clients. J'en ai largement assez.
Ouais. Mais en fait, et ça marche par bouche à oreille, vous faites même pas plus de publicité ?
Mon atelier est en liste rouge, téléphone depuis 15 ans, pour pas que les clients m'emmerdent, quoi.
Vous en avez tellement que vous voulez plus qu'on vous emmerde.
Oui, voilà.
Sinon, il y a quoi ? Il y a pommes, ça, ce sont des pommes ?
Des pommiers, oui.
Des pommiers, et les trucs verts, là, les plantes vertes, c'était là, des choux, c'est quoi ?
Des choux, oui, des choux.
Ça ? Oui, là, c'est un hangar,
oui.
Où apparemment, vous allez montrer des horreurs.
Oui.
Et là, c'est du chou pour la potée au chou et un champ de pommes, quoi.
Oui, c'est pour des potées au chou l'hiver, c'est bon ça.
Où est-ce qu'on va, là ?
On va à l'atelier.
Et c'est quoi l'adresse, alors ?
Aux 3 routes de Mal-Auverge.
Non, ça s'invente pas. Mal-Auverge, au pluriel.
Avec un S, oui, pas oublier le S.
Et d'où ça sort, ce nom ?
On ne sait pas, c'est inscrit au cadastre depuis 300 ans environ. On ne sait pas.
On ne sait pas. Voilà.
On va Voilà, bah, l'intérieur c'est un atelier traditionnel avec beaucoup de ferraille, de l'outillage.
De quoi vous êtes le plus fier ?
Oh, mon travail en général quand même. C'est rare que de reproches.
En fait, la pire vexation pour vous, ce serait qu'un client vous dise, pendant nos séances un peu coquines, l'objet a lâché.
Oui, ça m'est jamais arrivé, à part les pertes de clés de cadenas, des conneries dans ce style. C'est garanti à vie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah si, une fois, j'ai eu un souci avec un lit qui restait coincé, en hauteur, un lit sur vérin. C'était un lit de 3 mètres sur 3 mètres, et monté sur vérin. Puis en haut des glaces au plafond, et le fantasme c'était de s'approcher le plus près possible des glaces au plafond, puis de faire joujou, donc ils se voyaient faire des ébats pour plusieurs couples en même temps.
Ah bon?
Oui.
Bah dites donc, c'est un grand lit alors.
Ah bah les 3 mètres sur 3 mètres, on peut jamais mettre quelques personnes dessus. Hein. Ouais. Il fallait aussi que les vérins s'arrêtent avant de monter en haut, parce que sinon ils se trouvaient croisés là-haut, c'était un petit peu scabreux. Enfin bon, alors donc j'ai été faire un dépannage, et puis donc plusieurs. C'est le seul problème que j'ai eu au niveau...
Ne me dites pas que les couples sont restés coincés là-haut.
En hauteur, si. Alors, on trouve une échelle, ils sont obligés de descendre.
Non.
Bah oui, j'avais des problèmes avec l'hydraulique, avec les vérins.
Vous rigolez, il a fallu les faire descendre avec une échelle, bah, tout
oui,
nu
Bah oui, mais c'est pas un problème, ça. Ouais. Je suis arrivé, il y en avait encore deux ou trois à poil, mais bon, c'est pas un souci. Non, j'ai solutionné le problème, mais c'est vrai que là, j'ai eu une tuile, j'ai mis plusieurs fois avant que ça marche. Donc c'est une perte de temps et puis une perte d'argent, parce que c'était un problème de prise d'air. Dans les vérins.
C'est un problème de prise d'air dans les vérins ?
Oui. Une fuite hydraulique, ça, on essuie, mais c'est terminé. Mais quand vous avez de la moquette et des pots de nounours par terre et puis des glaces partout, on ne va pas purger les tuyaux correctement. Quoi. J'ai mis quand même plusieurs mois à résoudre la panne.
Terrible ça, hein ? Vous avez une fuite hydraulique, une prise d'air dans les vérins, et voilà. Une histoire d'amour qui tombe en loc, hein. C'est ça l'amour forain, l'amour avec des instruments, l'amour avec des outils, l'amour avec de la ferraille, avec des clous, avec des croix, avec des fils de fer barbelés éventuellement. C'est une vieille coutume. Non, ne croyez pas que c'est notre époque qui est particulièrement perverse et dévergondée. On trouve ça depuis toujours, ça s'est toujours fait. Oui, dans tout un tas de cultures différentes, y compris les cultures traditionnelles, on trouve le recours à... Alors des fois, c'est beaucoup plus végétal, ça vient de ce qu'on a sous la main. Alors là, bon, bah aujourd'hui, c'est la ferraille, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et il y avait... Dans les bordels de la grande époque, dans notre belle capitale parisienne, eh bien, de ces meubles, de ces sièges bien particuliers qui se fabriquaient. Et si ça revient, grâce à nos élus, eh bien, on verra à nouveau peut-être toute une branche économique se développer. Mais on voit que Bruno a trouvé, sorti de sa campagne, il a trouvé une façon de se recycler. Alors évidemment, à partir de maintenant, tout ce qu'on dit est à double sens. Si je dis se recycler, hop, vous pensez tout de suite à, eh oui, un vélo sans selle. Ce qui est mal, parce que on peut très bien ne pas penser qu'à ça.
Ah, je vais quand même vous dégager un petit peu là. Voilà, j'ai quand même une cage sympa, là, tout trifté. Hein. Je montre quand même... Attends,
vous êtes en train de dégager quoi ?
Une cage toute riftée ancienne, enfin style Louis XI, quoi. Où les gens s'enferment dedans puis font joujou dedans, quoi. Pardon. Il n'y a pas de soudure. Tout est assemblé entièrement à dérivé à chaud. Donc, c'est comme on faisait il y a 300 ans, quoi. Des méthodes anciennes de travail.
Et c'est en quoi ?
En acier. En acier.
Mais alors, elle fait combien ? Elle fait quoi ? Un mètre ?
Un mètre. Alors, c'est une cage de soumission pour les maris désobéissants, ça. Donc, ça fait 1m20 sur 1m20 au carré, plus 1m20 de hauteur. Donc, c'est une position à la con. Vous pouvez ni être debout, ni être allongé. C'est des positions à la con.
À la con ?
Bah oui, parce que vous voyez bien, la cage, on ne peut pas être debout, on ne peut pas être assis. Enfin, si, assis, c'est tout. On ne peut pas être allongé, on ne peut rien faire. Donc, c'était la copie des cachots anciens.
Il y a une porte pour rentrer ?
Il y a une porte d'entrée ici, comme en bas.
Ah, on ne voit pas, hein ?
Bah, approchez-vous, comme un passage pour comme vous faire entrer un chien, vous voyez ?
Ah oui, tout petit, quoi.
Voilà, les gens rentrent dedans à quatre pattes.
Ouais. Mais alors ça, c'est pour faire quoi ?
Actuellement, bah, c'est pour une clientèle particulière, comme étant les gens partent en week-end prolongé, ils n'ont pas confiance dans le mari ou dans la femme, ils les mettent dans la cage pendant le week-end.
Je me demande si je comprends bien. Ça, c'est une cage dans laquelle on met son conjoint quand on part en week-end et qu'on veut être sûr qu'il ne bouge pas.
Voilà. Ça se pratique dans certains milieux. Et puis, ils mettent une gamelle de pain sec et une gamelle d'eau. Et puis, voilà, le week-end se passe. Et puis, ils rouvrent la cage en rentrant de week-end. Puis, ça se vend. Il y a une clientèle pour ça.
Cher ?
Non, ça vaut 7000 francs une cage comme ça. C'est correct.
Un peu plus de 1000 euros, quoi.
Oui, bah moi, je ne me ferai jamais l'euro, après c'est tout. Je suis vieille France. J'ai des boulets, là, pour... pareil, quand les clients partent en week-end pour que leur mari se sauve ou les femmes se sauvent. Enfin, c'est pour les maris. Je vais en trouver un beau, là. Attendez, bougez pas. Je sais pas où c'est plus simple.
C'est Ah oui, vous savez où il est, au moins ?
Oui, bah c'est là-dedans. Oui.
Ah, attendez, ouais. Il faut enlever la selle de cheval, il faut pousser le moteur. Il y a du grillage.
Il y a une table en fer forgé. Là, une caisse à munitions, on va y arriver.
Une caisse à munitions, ouais.
Voilà. Alors, vous avez un gros spécimen, là. C'est quand même 90 kilos.
Hein ?
C'est un boulet qui fait 90 kilos.
Ah, vous pouvez pas le traîner jusqu'à moi, ouais.
Vous voyez, ben non, c'est une grosse bête.
Attendez, je m'approche de vous, j'évite le bac à huile. Ouais.
Bah, je vais vous faire une démonstration, tiens. Ouais. Si un jour votre mari vous emmerde, vous allez voir. Il n'y a pas 40 solutions. Hop, vous attachez à la patte comme ça, clac, on referme.
Alors vous mettez la chaîne.
Et puis donc, bah, le mari, il a ça le week-end à la patte, quoi. Il ne peut pas tellement bouger, quoi. Je ne sais même pas s'il appelle au petit coin, parce que c'est leur problème. Parce qu'il est soumis, c'est une punition. Bon, c'est une des règles du sadomasochisme, des SM, quoi. Et donc, ils s'imposent des règles entre eux, et voilà, quoi. Bon, pour une fois, ça change, c'est bien, voilà.
Ah oui, alors c'est pareil, c'est le fantasme de l'homme qui est un riche industriel pendant la semaine, voilà, qui commande du monde et qui, le week-end, est soumis par sa femme.
90% de la clientèle sont des hommes qui sont punis. Voilà.
Et alors, vous dites que donc ça, il faut une clé spéciale pour le défaire.
Oui, pour pas qu'il se sauve.
Vous l'avez ?
Oui, bah une fois, une cliente avait perdu, elle appelé un matin 2h pour libérer le mari. Alors, je suis allé, mais maintenant, j'irai plus maintenant. Il attendra 8h au bout du monde maintenant.
C'est-à-dire que vous étiez à
la campagne,
vous êtes remonté sur Paris, oui, à 2h du matin.
Pour libérer le mari, oui.
Pour libérer le mari, oui. Non.
Non, c'est sérieux, oui. Alors, bon, ça va une fois ou deux, mais pour 10, hein. 10, 15 ans de moins, pour se terminer, c'est quand même terminé maintenant, sans qu'à se débrouiller. Je suis tout habitué, il cache tellement les clés qu'il les perd, quoi. Alors on planque pour les gamins tombent dessus pour la fin de ménage, et puis ça finit qu'on perd tout, quoi. Ils ont une scie à métaux dans un petit coin, puis voilà.
Donc vous livrez toujours vos matériels SM avec une scie à métaux ou quelque chose, quoi.
Ils se démerdent, c'est clair.
Combien vous dites de kilos ?
Le boulet, celui-là, c'est un gros modèle, il fait 90 kilos. 90 kilos ? Parce que j'ai eu un problème avec une cliente, j'avais fait un boulet de 30 kilos, puis son mari s'était sauvé avec. Alors elle m'a appelé en catastrophe, il fallait faire un boulet plus gros. Pas une urgence pour le week-end suivant. Alors bon, j'ai dû faire couler un boulet en urgence. Elle a payé le prix fort parce qu'il y avait la livraison et puis il y avait du travail comme ça en urgence, quoi.
C'est-à-dire vous livrez, éventuellement il peut se passer quelque chose avec la dame, éventuellement, et puis après vous repartez.
Ah bah non, là, pour un boulet, on fait pas joujou, un boulet. Non, faut pas joujou à tous les coups. Hein. Non, là c'est. Ouais. Non, on fait joujou une fois sur 10, hein, c'est pas. Puis vu que j'ai pas trop le temps en ce moment en plus. Ouais. Bon là, c'est pas des objets de grosse valeur. Un boulet comme ça vaut 1500 balles. Hein. Bon là, il y a du délai, hein, faut un an d'attente. Hein.
Non.
Ah oui, j'ai trop de boulot, ça vaut rien, ou ils vont ailleurs. Puis comme ailleurs ils trouvent pas, ils reviennent à la charge, quoi.
Mais vous êtes le seul à faire des trucs pareils ?
On doit être 3 en France à faire ça, oui. J'en vends également en Allemagne et puis en Hollande, et puis aux USA aussi, qui sont gourmands, genre de choses là, quoi.
Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. comme il redoute que des canailles convoitent ses rabots, ses tenailles. En se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal. C'est commode, je vous jure. Et souvent la nuit, je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin. Mais ce n'est qu'un vilain requin. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur.
Là, vous marchez sur un fouet, faites gaffe, là. Oui.
Sérieux?
Non, bah si, carrément.
Ah ouais, bah, oui. Un fouet, mais c'est pas votre domaine, le fouet.
Non, non, c'est parce que c'est une cliente qui a dû le laisser là, oui.
Et vous avez des modèles de cercueil
bah
ici?
Bah oui, là, j'ai le mien qui est là.
Pardon. Comment?
J'ai le mien là qui est devant vous là.
Qu'est-ce que vous appelez le vôtre?
Bah quand je vais clamser, on mettra dans la caisse.
Non.
Bah si, j'ai préparé mes obsèques, comme ça c'est clair. La caisse est là, elle est prête.
Alors, ah, c'est là-haut, au-dessus donc, de l'armoire
il est,
là?
Oui, il est de qualité, il est en chêne. Donc c'est pour une personne jusqu'à 1m85. Avec poignée en bronze, c'est de très bonne qualité. L'intérieur est en satin, et en coton et en lin, brodé. Bon, c'est sympa. Voilà.
En satin, coton, c'est vous qui avez choisi, évidemment.
Ah oui, j'ai choisi la parure intérieure, oui. J'essayais, hein, tout va bien.
C'est vrai?
Oui, ça me va très bien.
Le bois, c'est toujours chaleureux, ouais, de toute
chaud,
façon.
Bois. Oui, le bois, c'est chaud.
C'est vrai, c'est joli, le bois, comme ça, c'est... Oh, petit intérieur douillet. Voilà comment Bruno voit l'avenir. Enfin, le sien, en tout cas. Alors, évidemment, vous vous dites... Un an pour livrer un boulet, c'est quand même long. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut savoir ce qu'on veut. Une cage, si vous rêvez de mettre une cage ou votre mari pendant le week-end dans une cage, eh ben, ça doit être assez long. Alors Bruno raconte aussi qu'il a des clients encore plus spéciaux, c'est déjà pas mal, mais il a encore plus spécial. Quelqu'un qui lui a demandé une guillotine, mais une vraie guillotine. Alors je dis oui, mais bon, à condition de mettre un frein au bon endroit. Vous voyez, un taquet quoi, qui arrête au bon endroit. Un autre qui lui a demandé une chaise électrique, mais une vraie. Ah, alors là, il a dit non. Ça peut paraître bizarre, mais une vraie chaise électrique, c'est pas, il va pas jusque-là. Il raconte des histoires extraordinaires. Alors évidemment, il y a toujours l'homme politique célèbre qui, chez lui, dans sa propriété, organise des parties fines et sévères. Mais évidemment, même sous la torture... Bruno ne nous dira jamais de qui il s'agit. Voilà ce à quoi on peut passer ces jours quand on est un honnête ferronnier, serrurier qui ne cherche qu'à faire marcher sa petite entreprise.
Alors, je remets le pied dans la bassine. Voilà.
Une fofolle, là.
Une fofolle ?
Ouais. J'ai pris un lampadaire avec un... Avec un jouet, vous voyez.
Alors, attendez.
C'est clair quand même, net quoi. Hein.
ça oui, s'appelle un sexe d'homme érigé avec un abat-jour dessus.
Où a fallu son érection, d'une taille déjà assez conséquente. Oui. Et puis, dessus un abat-jour quoi.
C'est en quoi?
C'est en acier. C'est en acier, oui. Et puis, faut aimer quoi, c'est sympa. Faut aimer quoi.
Oui, mais j'aime pas l'abat-jour, figurez-vous.
Ah, vous laissez ça.
Mais ce petit pied de poule sur ce sexe en érection, ça va pas.
Ah oui, non, mais elle voulait ça. Bon, maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Mmh. Donc, je le range, parce que, hors de la vue des enfants, hop.
Alors, vous le refoutez dans le... vous le remettez
dans
le fouillis. Dans
le fouillis. Et puis, bon, elle sera livrée peut-être cette année ou l'année prochaine, bon, quand j'aurai le temps.
Et ce sont les mesures de la partie intime de son mari?
Ah, son mari, non, il est pas tellement bien monté, apparemment. Non, non, justement, ça doit la faire rêver, ça.
Ça la fait rêver.
Je pense, ouais, je pense.
Ouais. Bon. C'est vous, là?
Oui, c'est moi, en tenue de forgeron, avec bien entouré, que si je puis dire, quoi.
Entouré de femmes nues?
Oui, c'est sympa, ouais.
J'ai cru que c'était des photos de vos femmes, parce que toutes ces femmes en string et... Comment on appelle ça, là? En porte-jartel, ou complètement à poil, d'ailleurs.
Non.
C'est pas à vous?
Oui, il y en a une, oui. Oui. La blonde, là.
La blonde à droite, là?
Oui.
Ça a été votre femme?
Oui, entre autres, oui.
Entre autres.
Enfin, en 3 ans, oui.
Vous avez quand même eu 4 femmes dans votre vie.
Oui, bah oui. Bon, c'est vrai que la première femme est partie, elle n'était pas sérieuse, je n'ai pas le tombé. J'ai tombé sur une femme adultère au départ, donc c'est pas...
C'est-à-dire qu'elle est partie avec qui?
Un client, tout bêtement. un client, oui. Elle était, on peut dire le mot, fainéante, et puis la cuisse hospitalière, ça faisait beaucoup de défauts, quoi.
La cuisse hospitalière,
oui, ça se dit, ouais. Alors, on a un mot, on appelle ça être cocu. Mais bon, maintenant, j'en rigole avec le recul, quoi, mais c'est pas marrant. Enfin, les femmes légères, c'est toujours marrant chez les autres, quoi. Mais chez soi, c'est jamais bien marrant, quoi. Parce que c'est vrai que j'étais pas assez présent, peut-être. Enfin bon, dans une séparation, il y a toujours des torts de deux côtés. Hein. Je ne cherche pas à accabler la chose. Mmh. Et puis après, ça a été Paris, puis après, ça a été les discothèques, et puis le monde de la nuit. Alors là, j'ai tout vu, quoi. j'ai tout vu. Il y a un côté sympa, quand même. Sans donner de gants, bon, c'est pas partie du métier.
Mais on s'enlace. Hein.
On s'enlace.
On s'enlace. Mais pour s'enlacer, il faut d'abord y avoir goûté.
Oui, non, bah, à force, bon, bah.
Mais vous avez mis combien d'années à vous lasser quand même ?
Ah, un bout de temps, mais au moins 10 ans. Pas tant qu'on est ferronnier, tout le monde a besoin chez soi d'un plombier ou d'un serrurier. Hein.
Et alors ?
Alors, après, on fait un dépannage ou on fait un portail, et puis ça finit par un paiement en nature, enfin, le truc classique, quoi.
Non, sérieux, parce que ça, c'est une légende. Hein, c'est la légende du plombier qui va sonner chez une femme, et la femme est toute nue et lui dit : Je vous en prie.
Un exemple, au début, je faisais ça. Bon, j'étais à Paris, dans un quartier sympa, livrer une cage. Bon, en arrivant, monsieur est parti jouer au bridge chez des amis. Madame a ouvert. Bon, en robe de chambre transparente, ça commençait déjà à me mettre dans le bain, quoi. Et puis, j'ai livré la cage, elle m'a remercié. Et puis, à un moment donné, après, elle m'a payé l'apéritif. On a un peu s'y cassé, quoi. On a bu un petit peu de bonnes choses, quoi. Ouais. Et puis après, elle m'a demandé comment je voulais être réglé. Ça a fini un paiement nature, quoi. Puis j'en crête pas, bon. Puis voilà.
Oui, mais justement, là, vous avez fait une croix sur un travail de combien ?
Oh, c'est un travail à 6-7 000 francs. Mais bon, maintenant, monsieur, je suis d'affaires globales, ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas, c'est entre guillemets, c'est quand même pas une cage tous les mois, c'est de temps en temps. Hein. Bon, je pars jamais en vacances, à la limite, ça fait une vacance, ça fait une soirée, puis c'est tout. C'est une soirée sympa, bon, ça coûte un peu cher, mais bon, pff, ouais. Vous savez.
Et ça, bon, comme on dit, ça valait le coup ?
Ah oui, bien. Bonne tenue au mastic, rien à y apprendre. Bien, bien, bien. Non, la femme de 45 ans, qui connaît tout, quoi.
Ah bon ?
Oui, il n'y a pas de sujet tabou, tout autorisé.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
Oh, bah moi j'avais, je sais plus, 32 ans, quoi.
Vous 32, elle 45.
Oh, mais c'est rien, ça. Ça ne doit pas, ça.
Et vous avez livré en blouse bleue, comme
blouse,
ça ?
Rasé. Quand j'avais 18 ans, j'astiquais ma voiture tous les dimanches, pratiquement en costume. Je n'avais rien. Maintenant, avec mon camion, ma blouse, ma gueule pas rasée, je lève ce que je veux. Vous voyez, là, on comprend rien à la vie. Hein.
Vous levez ce que vous voulez, c'est ça que vous m'avez dit ?
Oui, ça me donne une gants. Ouais. C'est peut-être l'expérience ou le milieu qui veut ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, toutefois, j'étais bien sapé et tout. Comme on dit, on fait carpette, on n'aime rien. Et puis, toutes les aventures que j'ai eues, mes femmes les ont levées avec mon camion, tout. Mes trois femmes.
Vos trois femmes, vous les avez eues avec le camion ?
Oui,
c'est-à-dire, chaque fois.
Je les ai levées à chaque fois avec mon camion, même vous avez ma gueule pas rassée. C'est vrai en plus. C'est tout à fait la vérité, voilà quoi. Je suis un peu chauve, mais moi ça m'amuse. J'ai des amis là qui font la dépression parce qu'ils perdent leurs cheveux, moi j'en rigole.
Oh, à peine, franchement, à peine. Hein.
Oui, facile. Enfin, si. Et puis, non, ils définissent, bon, je suis ordinaire, mais c'est le charme. Vous avez des gens moches qui ont beaucoup de charme. Et puis, là, je suis un petit peu enrobé en ce moment, mais bon, enfin, mais c'est un petit peu régime parce que là je passe, quoi. Il ne faut pas non plus faire attention. Pour... Oui.
Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de vous imaginer en blouse noircie, on va dire. On ne va pas dire sale, on va dire noircie. Pas coiffé, pas rasé.
C'est comme ça qu'on l'élève.
Hein ?
C'est comme ça qu'on l'élève, parce que leur mari, il passe matin une heure dans la salle d'eau, une heure le soir. En plus, Mathieu Dutton, elles sont mal baisées, il faut parler clairement. Alors, elle veut goûter autre chose.
Vous pensez systématiquement qu'elles sont mal, comme vous dites ?
C'est normal. En France, il y a 7 femmes sur 10 qui sont mal baisées, ça, il faut le savoir, ça. Il n'y a pas besoin de lire Union, lui, ce bouquin-là.
Mais d'où vous sortez vos chiffres ?
Parce que je le sais, c'est des statistiques officielles des rencontres que j'ai faites. Vous avez des très belles femmes qui n'ont pas d'amis ou pas de rapport. C'est monnaie courante. Ça. Plus elles sont belles, plus c'est compliqué à aborder. On n'ose pas, on est tous timides. Et finalement, plus elles sont seules, et plus elles se font chier, et plus elles cherchent un mec normal pour faire joujou. Des filles qui sont mal dans leur peau. Quoi. Elles passent leur temps à faire du jogging, du sport, et puis on sent qu'il y a un truc qui ne colle pas. Quoi. Une femme, en général, vous mettez 5 mois avant de faire joujou avec. Si vous faites joujou avant, c'est pas bon, c'est parce que ça suit pas. Une fois qu'elle est en confiance, ça tombe comme une mouche un soir, ça tombe comme une mouche. Non, mais c'est vrai.
Ouais. Mais c'est marrant parce que vous dites aussi que vous avez attendu 21 ans pour connaître une femme.
Parce que j'étais dans le milieu agricole, comment dirais-je, tout ce qu'il y a plus
comment dirais-je, pas austère, enfin, bridé, voilà le terme. J'étais élevé dans un milieu clérical, où le clergé était omniprésent. Donc, je allais à la messe tous les dimanches, et puis, c'était masse sortie, en rentrant de la messe, on allait à la petite messe le matin à 8h30, parce que la grande messe à 11h, on a perdu du temps pour travailler, donc je bossais tout le temps. Et puis, après, j'étais à l'armée, dans un milieu assez strict, et donc, je suis rentré de l'armée, j'ai commencé à fréquenter les clubs hippiques, ça m'a débridé, entre guillemets, quoi. Mais bon, évidemment, il y a des gens qui ont des rapports à 15-16 ans et tout, mais ça n'a pas été mon cas. La bonne bourge là, qui se fait chier dans la baraque, vous arrivez 9 chances sur 10 pour que ça finisse au plumard. Hein. Enfin, il n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est pas marrant tous les jours, c'est comme ça.
C'est pas marrant tous les jours.
Il ne faut pas plaisanter. Non, il y a des jours, on n'a pas la tête à ça, on est tous pareils, on a tous nos soucis. Hein.
Ouais.
Moi, le premier, ce qu'il faut comme souci, c'est mes délais et tout. Donc finalement, je ne fais même pas le tiers de ce que je pourrais faire, même pas. Et puis, bon, c'est bien beau, les belles femmes siliconées, mais ce n'est pas ça qui fait à manger, ce n'est pas ça qui fait le lit. Hein.
Ah ouais.
Alors, ça va 5 minutes, tout ça, mais on aime bien rentrer le soir, et puis qu'il y a à manger, à boire, et le lit fait, quoi.
Ah, les femmes blondes siliconées, elles ne font pas le ménage, d'accord.
Bon, c'est du rêve, ça, mais tous les jours, ouais. Quand il faut aller tous les jours au restaurant, où j'ai connu ça, j'ai vécu 3 ans comme ça, où on passait notre temps au restaurant, entre l'onglerie, les UV, et puis, bon, ça va 5 minutes, mais on s'en lasse, quoi. On s'en lasse.
Ah, mais ça a dû vous coûter une fortune, en plus.
Oh, fortune, non, mais enfin, bon, ça dépend ce qu'on appelle fortune, quoi. Quand vous voyez que ça coûte plus que ça rapporte, faut savoir s'arrêter, quoi.
Et comment enfin, plus que ça rapporte, oui.
Bah, non, en termes vulgaires, mais bon. Puis maintenant, je suis devenu sage, donc, encore une fois, donc je me suis calmé. Oui. Mais bon, j'ai une vie sexuelle tout ce qui est plus ordinaire. J'aime bien les choses simples. Moi, j'aime faire joujou dans un lit, hein, un beau lit bien douillé, que de faire joujou dans une cage, mais chacun sait son truc. Hein.
Mais vous avez un petit peu essayé votre matériel, quand même, non?
Oui, sur la croix, une fellation, c'était bien fait, là, c'était sympa, ouais. Avec une belle dame, on pouvait demander hier mieux.
Pourquoi vous êtes calmé?
Bon, parce que ça apporte rien de spécial, rien de plus, à part des soucis, des emmerdes. En plus, quoi, alors j'ai ma dose d'emmerdes, des soucis, puis ça va bien comme ça. Hein. Ça va bien comme ça.
Et je peux vous demander avec quel genre de femme vous êtes casé?
Ah, une femme très stricte. Tout ce qu'il y a de plus strict. Une femme de grande famille. D'origine noble. Mais bon, je te dis par mon charme et ma gentillesse, puis mon honnêteté, quoi. Je suis arrivé bêtement faire un dépannage pour une serrure. Je voulais même pas y aller, m'a appelé 4-5 fois pour faire un dépannage, une serrure qui était bloquée. Mais j'ai mis plusieurs mois à séduire madame.
Et elle vous a gardé, quoi?
Elle m'a gardé. Parce que je suis tout ce plus gentil et sérieux.
Mais
c'est attentionné,
ouais,
quoi.
Oui, mais attentionné.
Regardez les détails. C'est la voiture le matin, vous vérifiez si les pneus sont assez gonflés. Et puis, ce sont que des détails. Une femme ne regarde jamais les niveaux d'une voiture, ne fait jamais rien, ne regarde jamais ça, tout ça.
Et alors?
Bon, moi, je surveille tout ça, tout ce qui est l'environnement.
Ah, vous surveillez le niveau du niveau d'huile de sa voiture,
voilà.
Et vous pensez que c'est bon?
Des détails, mais c'est un détail parmi tant d'autres, quoi.
Ouais.
Des détails, comme les bouteilles de gaz qui tombent pas de dimanche, moi, j'évite, enfin, toutes ces conneries-là, quoi.
Et vous pensez que c'est pour ça qu'elle vous aime?
Ah, bah, c'est une multitude, un ensemble.
Et vous gardez votre blouse de forgeron, là?
Ah non, quand je rentre chez madame, je suis rasé, bien habillé, on va dîner au restaurant, et c'est comment et vous?
Vous voyez?
Oui, en général, oui. À la base, je suis un homme des bois, j'aime mieux être dans mon environnement avec mon chien et les juments, et puis ma femme le dimanche, et puis voilà, ça va bien comme ça. Or, j'ai jamais eu le temps de me marier, je ne sais pas si ça va venir un jour, peut-être, faut pas désespérer.
Pas une question de temps quand même, hein?
Non, mais ça, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Ça, enfin voilà, c'est une vie. Pas de patachon, mais une vie un peu compliquée, enfin, une vie d'aventurier. Mais bon.
Mais vous regrettez pas, quoi?
Ah, je regrette rien. Rien du tout.
C'était « Ah, quelle belle boîte à outils », une nouvelle diffusion d'un reportage d'Anne Rioux. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis » sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Yann Bouillot. Cette émission a été réalisée par Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez, assistée de Pierre-Yves Bulteau. Solène Cordier attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. We'll be right back.
mais j'ai peur en avion et en bateau. Alors depuis que j'ai gagné Euromillions, j'ai enfin pu aller en Corse, en me faisant construire un tunnel sous la Méditerranée. Mais indiscret, hein, parce qu'il ne s'agit pas de déranger les Corses. Prochaine étape, New York. Et si je faisais un pont pour y aller ?
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche ?
Exceptionnel ! Ce vendredi, super jackpot de 100 millions d'euros. Oui, je répète, 100 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter et le théâtre Héberto présentent actuellement Le Père. Une comédie de Florian Zeller avec Robert Hirsch, Isabelle Gélinas, Patrick Catalifo, mise en scène par Ladislas Chola.
Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges autour de nous. Tu n'as pas remarqué ? Il y avait cet homme qui prétendait que je n'étais pas ici chez moi. Un homme avec une tête vraiment antipathique. Un peu comme ton mari, en pire.
Retrouvez Le Père dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire de la 26e édition du Festival de Marne, du 5 au 21 octobre. Plus de 70 artistes dans une vingtaine de villes du Val-de-Marne. Sporto Cantès, Staff Bendabilili, Alain Souchon, Erwan, La Grande Sophie, Kali, Archimède, Zoufris Maracas, Oldelaf, Kabadzi. Un événement musical haut en couleur. Des artistes à retrouver dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Dans quelques minutes, vous retrouverez Frédéric Laudéon. Bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, l'extradition vers les États-Unis d'Abu Hamza est suspendue aujourd'hui par la justice britannique. C'est la conséquence de l'appel formulé par l'imam radical, ancien prêcheur de la mosquée londonienne de Finsbury Park. Abu Hamza est accusé par les États-Unis d'avoir tenté de mettre en place un camp d'entraînement d'Al-Qaïda dans l'Oregon. Les autorités américaines l'accusent aussi d'avoir aidé les islamistes qui ont enlevé 16 touristes étrangers au Yémen en 1998. Pour la deuxième fois depuis le début de l'enquête, le domicile d'Abdelkader Mera a été perquisitionné aujourd'hui à Haute-Rive, en Haute-Garonne. Abdelkader Mera est le frère aîné de Mohamed Mera, le tueur au scooter, et c'est le seul mis en examen dans cette affaire, Frédéric Bourgade.
Les enquêteurs, dans des voitures immatriculées à Paris, sont à pied d'œuvre depuis ce matin 8h, et un cordon de CRS tient à distance les journalistes qui cherchent à observer la situation. Le prévenu, Abdelkader Mera, a été extrait de sa cellule de la maison d'arrêt de Fresnes pour assister à cette nouvelle perquisition. Ce n'est évidemment pas aujourd'hui la première. La maison a déjà été abondamment fouillée, mais aujourd'hui les enquêteurs cherchent probablement des indices ou des preuves qui pourraient démontrer qu'Abdelkader Mera a influencé concrètement ou coorganisé avec son frère Mohamed les attentats. Il y a également ses déclarations concernant un troisième homme. La maison perquisitionnée n'est pas très grande, mais peut-être les enquêteurs y cherchent-ils aussi des traces ADN le concernant. Cette perquisition est en tout cas logique. Elle intervient quelques jours après que le directeur de la DCRI a été entendu sur les ratés du suivi par les services de police de Mohamed Mera. Haute-Rive, Frédéric Bourgade, France Inter.
La cour d'assises de Bursa, dans le nord-ouest de la Turquie, n'autorise pas ces villes Semvimli à sortir du territoire. Décision annoncée à l'occasion de l'ouverture du procès de ce matin de l'étudiante franco-turque. Sevil Sevimli est soupçonnée de lien avec un groupe d'extrême-gauche interdit dans ce pays. Elle a passé 3 mois en détention. Son histoire a ému la France cet été. Son comité de soutien à Lyon a recueilli 120 000 signatures dans une pétition. La jeune femme est donc aujourd'hui libre de son contrôle judiciaire, mais elle peut circuler librement, mais seulement en Turquie. La prochaine audience de son procès aura lieu le 19 novembre prochain. La création d'une union bancaire pour contribuer au règlement de la crise de la dette dans la zone euro pourrait conduire à une fracture au sein de l'Union des 27. C'est l'avis aujourd'hui d'élus allemands du Parlement. Ils l'ont dit au cours du débat à Bruxelles, débat qui provoque de profondes tensions sur ce sujet. SNCF Géodis cède sa filiale Novatran au groupe Charles André. Le conseil d'administration de la filiale en difficulté a validé aujourd'hui donc l'offre de reprise du spécialiste de transport combiné rail-route. Elle sera effective au premier trimestre 2013. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. On sait seulement que 110 emplois seront repris sur les 257 que compte Novatran. Les salariés restants se verront proposer des offres de reclassement au sein de la SNCF. Enfin, on l'apprend aujourd'hui, l'ancien garde des Sceaux sous Pompidou, Jean Tétinger, est mort dimanche à l'âge de 89 ans. Ancien ministre d'État, il était resté président d'honneur du Champagne Tétinger. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Ouvert la nuit.
nuit.
On vous livre notre nouvelle recette.
Alexandre Hérault.
Tout d'abord, il y a notre invité.
Vous l'adulerez, vous ne connaîtrez que lui.
Aurélie Sfez.
Parfois, il ne sera pas connu, il faudra le reconnaître.
Bonjour.
Bonjour.
Une première heure exclusivement musicale, Aurélie Sfez, car à nos côtés sera présent un autre groupe à découvrir.
Et dans la seconde heure, Alexandre, la petite bande recevra qui ?
Un autre invité, faisant la scène culturelle du moment, et vos nuits s'ouvriront ainsi, car...
De toute façon, pour y voir clair, il faut rester ouvert la nuit.
Ouvert la nuit. Tous les soirs, à partir de 21h.
Autrefois, c'était mieux parce que c'était... Il n'y avait pas les... C'était...
Non.
C'est...
Mais vous continuez longtemps.
Tu penses qu'ils appellent ça de la musique.
En tout cas, les informations, bah, il paraît que c'est pas vrai.
C'est...
France Inter.
C'est différent maintenant.
La voix est libre.
Et c'est à vous, Frédéric L'Odéon, pour Carrefour de l'Odéon.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, voici un nouvel enregistrement du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier, évidemment. Alors c'est une somme qui peut faire peur et qui peut effrayer parce que c'est la science à l'état pur, peut-être, dit-on. Mais en attendant, il y a aussi de l'humour, il y a aussi de la finesse, il y a aussi de la légèreté chez Jean-Sébastien Bach. Il y a absolument tout et András Schiff nous offre sa version, peut-être un peu rigoureuse si on veut, mais en tout cas toujours instructive. C'est publié chez ECM et c'est vraiment une œuvre absolument intarissable. On peut chercher longtemps dans tous les coins comment il faut faire. Et puis on peut avoir des solutions à 20 ans, puis une autre solution à 30 ans, puis une autre à 40 ans. Et toujours cette œuvre-là reste riche de signification. Cinquième prélude en ré majeur de Jean-Sébastien Bach, clavier bien tempéré donc. L'immense Jean-Sébastien dans une toute petite pièce, le cinquième prélude en ré majeur du clavier bien tempéré, interprété par András Schiff. C'était un mouvement perpétuel en quelque sorte, très bref, un peu plus d'une minute, et en voici un autre mouvement perpétuel. C'est tiré de la 8e sonate pour violon et piano de Beethoven. C'est un Beethoven gai, joyeux, veux-je dire, tout à fait plein de bonne humeur, de bonne volonté, virtuose même, voilà, c'était pas tellement son genre, c'était plutôt un métaphysique Beethoven. Mais là, Non, il était dans une humeur radieuse visiblement et le violon et le piano se marient absolument superbement dans cet élan de bonne vie et de couleurs plutôt solaires. Thank you.
Thank you.